Carrefour des arts. Petite promenade musicale en compagnie d'Adolphe Adam, compositeur majeur de l'opéra comique du 19e siècle et académicien dans l'émission Carrefour des arts présentée par Christophe Mirambeau. Nous sommes dans la consternation. Hier, à 11h du soir, nous étions avec un de nos plus intimes amis, Adolphe Adam, causant de choses et d'autres dans la loge de l'administrateur de l'opéra. Il avait l'humeur joyeuse et ne semblait pas le moins du monde atteint par la maladie. En nous quittant, il a pris le bras de Monsieur de Saint-Georges et les deux amis sont allés ensemble au théâtre lyrique. Après le spectacle, Adam est rentré chez lui. Avant de se coucher, il a écrit une lettre et quelques notes de musique qui sont restées sur son piano. Ce matin, à 8h, Madame Adam entrait dans la chambre de son mari. Elle l'appelait et il ne répondait pas. Adolphe Adam était mort. Monsieur Marshal de Calvi a constaté qu'Adolphe Adam est mort d'un épanchement au cœur et que l'extinction de ses facultés vitales a dû être si prompte qu'il n'a pas eu le temps de pousser un cri. Cet événement cause dans Paris la plus vive et la plus profonde émotion. Pour notre compte, nous en avons le cœur brisé. Qu'il nous suffise de dire qu'il n'y a pas eu de nom plus populaire et de musicien plus aimé, toute la France en portera le deuil.
C'est ainsi que Léon Escudier annonce la disparition d'Adolphe Adam dans les colonnes de la France musicale du 4 mai 1856. Un Adolphe Adam, membre de l'Institut depuis 1844, mais un Adolphe Adam, compositeur populaire fort prolixe, dont les œuvres se fredonnent dans tous les milieux jusque tard dans le XXe siècle. Un Adolphe Adam également passé à la postérité à travers une mélodie rapidement composée à la demande de l'une de ses anciennes interprètes. Une mélodie intitulée « Minuit chrétien ». Ce Noël fut aux églises de campagne ce que la liseuse de Fragonard fut aux adeptes du Point de Croix. Afin de raviver quelques souvenirs, et comme nous sommes très coquins ici à Canal Academy, nous ne résistons pas au plaisir, en guise d'apéritif, de vous offrir quelques mesures de cet immortel chef-d'œuvre dans l'interprétation de Luis Mariano. Adolphe Adam, l'auteur de ce minuit chrétien tant chanté, avec plus ou moins de bonheur, est né le 24 juillet 1803 à Paris. 1803, une année faste pour la musique française, puisque moins de 6 mois plus tard, Hector Berlioz, qui sera élu au fauteuil d'Adam après sa mort, voyait le jour à la Côte Saint-André. Louis Adam, père d'Adolphe, était originaire de Mutterscholz en Alsace. Il enseigna le piano durant 45 ans au Conservatoire de Paris. On compte parmi ses plus célèbres élèves le virtuose et pédagogue Karl Brenner et le compositeur d'opéra comique Louis-Ferdinand Hérold, dont le Préau-Clair et Zampa furent d'immenses succès. Le jeune Adolphe Adam est tout sauf un enfant prodige. Il sèche les cours avec un autre cancre célèbre, Eugène Sue. À 7 ans, il ne sait toujours pas lire, tandis qu'il prend ses premières leçons de piano. Des leçons qu'il dégourdisse et l'éveille. son professeur, n'est autre qu'Henri Lemoine, compositeur et professeur de piano, qui avait été autrefois élève du père d'Adolphe Adam. Le violoncelliste Wiederker, compositeur strasbourgeois installé à Paris depuis 1783, est quant à lui chargé d'enseigner l'harmonie aux jeunes garçons. Aussi, Adolphe intègre-t-il le conservatoire de Paris, toujours avec une majuscule, en 1817. Les choses sérieuses commencent. Il étudie l'orgue avec Benoît, le contrepoint avec le compositeur Anton Reicha de l'Institut et la composition avec François-Adrien Boieldieu, l'inoubliable auteur de La Dame Blanche, d'après Walter Scott, un ouvrage phare du XIXe siècle qui ouvre la voie en 1827 à tout le théâtre musical romantique français. L'Institut ne lésinant jamais sur le nombre de génies qu'il accueille en son sein, Boieldieu fut lui aussi un immortel. Dans la notice que François-Joseph Fétis consacre aux musiciens, dans son Histoire de la musique, l'historiographe de tous les musiciens français et européens du XIXe siècle souligne qu'Adam était l'élève qui convenait le mieux aux leçons de Boieldieu. Celui-ci était le maître qui pouvait le mieux développer les dispositions d'Adam. Je cite Fétis. Tous deux étaient en effet d'habiles mélodistes et avaient pour qualité dominante l'expression de la parole chantée et l'intelligence de la scène. Bien sûr, Boieldieu a également polissé son élève. Doté d'une invention mélodique certaine, Adam travaille bien plus sur l'instinct que sur la technique. Et une certaine paresse lui avait dicté jusqu'alors de ne point trop s'embarrasser de considérations théoriques. Deviner et expérimenter les mécanismes constitutifs de la musique s'avérait sans doute bien plus plaisant que l'apprentissage laborieux de ses fondements. Adam pénètre les milieux musicaux grâce à ses talents d'organiste. Il apprécie la musique d'église et accepte de nombreux remplacements dans les paroisses parisiennes. Les tribunes d'orgue de Saint-Étienne-du-Mont, Saint-Nicolas-du-Chardonnay, Saint-Louis-d'Antin, Saint-Sulpice et Saint-Louis-des-Invalides accueillirent bien souvent le jeune musicien qui, au contact de l'auteur de La Dame Blanche, allait peu à peu s'intéresser au théâtre. Le premier contact professionnel d'Adam avec le monde du théâtre eut lieu au Gymnase dramatique. Ce théâtre du boulevard du Temple représentait comédies et vaudevilles dans lesquelles, selon la législation du privilège alors en cours, les auteurs avaient le droit d'intégrer des musiques de scène, airs et des chansons dans leurs pièces, du moment que la majorité de ces musiques fussent des chansons composées sur l'air d'eux, un refrain célèbre, une mélodie à la mode, et ne fassent appel qu'à un maximum d'un ou deux airs originaux. Adolphe fut engagé dans l'orchestre du gymnase pour y jouer du triangle, et oui, avant d'en devenir, la promotion est notable, le timbalier-chef, puis le chef des chœurs. En 1824, Adam se décide à concourir pour le prix de Rome. Il doit composer une scène sur le sujet d'Agnès Sorel. C'est un échec cuisant. Il obtient à peine une mention derrière Auguste Barbereau, un musicien qui deviendra chef d'orchestre au Théâtre français, la Comédie française. Mais le jeune homme est opiniâtre. L'année suivante, il retente le concours, mais hélas, sa cantate Ariane n'obtient que le second grand prix. Pour la petite histoire, comme on va le découvrir, décrocher un prix de Rome peut vous mener à tout. Le premier grand prix de Rome a été cette année-là décerné à un nommé Albert Guillon, qui, après son séjour à la Villa Médicis, partit se spécialiser dans l'élevage du ver à soie à Venise. Adam ne s'obstina pas. Si le prix de Rome ouvre souvent aux compositeurs lauréats les portes de l'opéra, l'Académie royale de musique, les théâtres parisiens peuvent offrir le succès et l'opportunité d'une agréable réussite financière. Alors notre compositeur se lance dans la musique de théâtre et compose des airs nouveaux pour les pièces de vaudeville, du gymnase et des nouveautés. Le succès est au rendez-vous. Ces airs courent sur toutes les lèvres et on les entend chanter bien au-delà des portes du théâtre, dans les cafés chantants du boulevard. Entre 1825 et 1828, il met en musique les couplets du Baiser au porteur, du Bal champêtre, de La haine d'une femme, de L'exilé, de La dame jaune, de L'oncle d'Amérique, de Scribe. Eugène Scribe, justement, dramaturge adroit, vaudevilliste efficace et rimailleur habile. Un excellent faiseur qui triomphe sur toutes les scènes de la capitale, gloire nationale et quasi artiste d'État. Scribe est un librettiste joué sur les scènes nationales de l'opéra comique et de l'opéra, tout comme Saint-Georges pour qui Adam a écrit des airs de vaudeville. C'est ainsi qu'Adolphe voit son premier opéra comique, Pierre et Catherine, présenté le 9 février 1829 sur la scène de la salle Favart, un opéra comique qui recueille un très honorable succès. En 1834, un petit acte, Le Chalet, enthousiasma le public de l'opéra comique. Le livret a été tiré par Scribe et Mélesville d'un sujet de Goethe. Boieldieu écrivit à l'occasion de cette création « Je voudrais que cette musique fût de moi ». les contemporains d'Adam s'obstinèrent bien souvent à considérer ce chalet comme le chef-d'œuvre du compositeur, au point d'en indisposer le musicien. Je vous propose un extrait de ce chalet qui fit les beaux soirs de l'opéra comique et des théâtres de province pendant de nombreuses décennies. Nous allons donc entendre la célèbre romance « Vallon de l'Helvétie, objet de mon amour ». C'était le grand Paul Plançon en 1904 dans « Vallon de l'Helvétie, objet de mon amour » du chalet d'Adolphe Adam. Le style musical de ce numéro est caractéristique de la romance dite d'opéra comique d'une part et du style d'Adam qui fit son succès dans les airs de vaudeville du boulevard. Le 13 octobre 1836, Adam fait représenter le postillon de Longjumeau sur la scène de l'opéra comique. La période est particulièrement féconde pour le compositeur. Tandis que l'on prépare le postillon à l'opéra comique, on s'apprête à représenter son premier ballet, La fille du Danube, à l'opéra. Des histoires de cœur viennent compliquer les répétitions du postillon. Les deux rôles principaux de la pièce ont été confiés à M. Chollet et Mlle Prévost, qui forment couple à la ville comme à la scène. Hélas, alors que le travail commence, M. Chollet a succombé au charme d'une autre cantatrice, qui a le bon goût de l'escorter en tout lieu, histoire sans doute de protéger ses droits et prérogatives. Mlle Prévost enchaîne crise de nerfs sur crise de nerfs, mais décide de tenir le coup. Peut-être prend-elle exemple sur les personnages de la pièce, Chapeloud et Madeleine, momentanément séparés, mais que le heureux hasard de tout opéra comique qui se respecte réunit à la fin. Le soir de la première, tout Paris fait un accueil plus que chaleureux à la nouvelle œuvre du compositeur. J'avais choisi ce jour et cette date, persuadé que cela me porterait bonheur. Le succès dépasse mon attente. Ce fut un véritable triomphe, écrit Adolphe Adam dans son volume de souvenirs. Bien vite, la 500e est atteinte et l'étranger s'empare de l'ouvrage. Le postillon s'en va conter son histoire à la Scala de Milan, où il fait un four, puisque l'ouvrage est retiré après la 3e représentation, puis à Berlin, où le succès est ébouriffant. Il est amusant de noter que ce postillon trouble parfois le sommeil du grand Richard Wagner, ainsi que le révèle son épouse Cosima dans son journal du 24 septembre 1878. Richard eut une très mauvaise nuit. Il s'est levé 3 fois et il n'est pas parvenu à trouver le repos, même au matin. Il se plaint aussi, mais cette fois en riant, que des thèmes du postillon de Longjumeau le poursuivent. L'ouvrage est toujours resté au répertoire des théâtres allemands, tandis qu'il a déserté depuis 50 ans les scènes françaises. Écoutons un extrait de ce postillon, interprété par Rockwell Blake. Il s'agit de la ronde du postillon, mes amis écoutez l'histoire, dont le cocher régale ses admiratrices, avant d'être remarqué par un impresario en chasse pour le compte de l'Opéra de Paris version Ancien Régime, qui, de cocher, va le transformer en vedette du chant.
Quand il passait dans un village, tout le beau sexe était ravi, et le cœur de la plus sauvage galopait en croupe avec lui. Oh, 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 qu'il était beau le postillon de Longjumeau. Le postillon de Longjumeau, le postillon de Longjumeau. Mainte dame de haut parage, en l'absence de son mari, exprès se mettait en voyage pour être conduite par lui. Au procédé toujours fidèle, on savait qu'à droit postillon, s'il versait parfois une belle, ce n'était que sur le gazon. Oh, qu'il était beau le postillon de Longjumeau. Le postillon de Longjumeau, le postillon de Longjumeau. Mais pour conduire un équipage, voilà qu'un soir il est parti. Depuis ce temps dans le village, on n'entend plus parler de lui. Mais ne déplorez pas sa perte, car de l'hymen suivant la loi, la reine d'une île déserte de ses sujets l'a nommé roi. Oh, 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 qu'il était beau le postillon de Longjumeau. Le postillon de Longjumeau.
Le ténor Rockwell Blake mettait tout son abattage à la disposition de cette ronde du postillon de Longjumeau d'Adolphe Adam. À la suite de ce succès, Adam reçut la Légion d'honneur. La réussite lui est comme un engrenage et Adolphe produit abondamment. Son style facile, agréable et délié se trouve en parfaite adéquation avec la sensibilité bourgeoise contemporaine. Il écrit tant pour l'opéra comique que pour le ballet ou l'opéra. Gisèle, grand ballet romantique tiré d'une ballade de Haydn, est l'un des fleurons de l'art chorégraphique français du 19e siècle, qui, avec Minuit chrétien, a permis à Adam d'exister ailleurs que dans les dictionnaires de musique. Adam écrit également pour les salons, de nombreuses romances, des chœurs, des chansons, mais aussi pour l'église. On lui doit 4 messes, des motets et de nombreux cantiques. Sa musique, si elle paraît parfois sans surprise, est cependant toujours empreinte d'élégance et de raffinement. Adolphe Adam, dont la vie est jalonnée de succès et de dîners en ville, voit pourtant son horizon s'assombrir durant la décennie suivante. Non pas en raison de sa vie personnelle, car il a contracté un mariage catastrophique avec une tigresse, dont il commente cruellement les folies et la férocité dans ses premiers souvenirs, mais en raison de quelques déboires professionnels. Si l'Institut l'accueille en son sein en 1844, sur le fauteuil du compositeur Berton, Adam s'est disputé pour une raison inconnue, mais extra-théâtrale, avec le directeur de l'Opéra Comique, M. Basset. Adam déclarait partout que tant qu'il serait au théâtre, on ne jouerait plus un seul ouvrage de lui dans cette maison. Aussi, cet homme charmant, Adam, aimable, fin et spirituel, se lança dans une ruineuse opération financière. En 1847, il achète à De Jean la salle du Cirque Olympique du boulevard du Temple, afin de fonder à Paris un troisième théâtre lyrique, pour lequel il a obtenu un privilège, c'est-à-dire l'autorisation de jouer des œuvres lyriques complètes, privilège qui n'était jusqu'alors accordé qu'à l'opéra et l'opéra comique. Adam jouera dans ce théâtre ses propres œuvres et les œuvres de jeunes compositeurs qu'il aura pris sous son aile. Adam s'endette gravement. Il fait exécuter quelques travaux pour transformer le cirque en théâtre d'opéra et le rebaptise Opéra National. Le 15 novembre 1847, l'Opéra National ouvre avec Gastibelza ou Le Fou du Roi, une création du jeune compositeur Louis-Aimé Maillard qui avait reçu le prix de Rome en 1841. La postérité n'a retenu Louis-Aimé Maillard que pour ses Dragons de Villars, un opéra comique apprécié à la fin du siècle dernier. Le succès est au rendez-vous. Adam ne s'arrête pas en si bon chemin et réhabilite des œuvres du passé. L'amortissement des productions et les cachets des artistes coûtent à Adam 1500 francs par jour. La recette est alors en moyenne de 2200 francs et elle couvre largement les frais engagés. L'avenir s'annonce sous les meilleurs auspices. Hélas, la révolution de février 1848 transforme ce joli rêve de théâtre en terrifiant cauchemar. Adam est forcé de fermer l'Opéra National car le public ne vient plus. Et on s'en doute, pour cause de révolution. C'est la banqueroute. Il est ruiné, revend l'établissement et va mettre de nombreuses années à rembourser toutes ses dettes. Dans ses souvenirs, Adolphe Adam écrit « La perte de ma fortune n'a pas été très sensible. Je n'ai connu qu'une privation, celle de ne pouvoir plus recevoir mes amis. C'était mon seul et plus grand plaisir. » Il note plus loin « Je rends grâce à Dieu, en qui je crois fermement, des faveurs, peut-être bien peu méritées, dont il m'a doté. Il m'a laissé encore assez d'idées pour écrire quelques ouvrages que je tâcherai de faire le moins mauvais possible. Pour rembourser ses créanciers, il doit composer et composer encore, en abandonnant la plupart de ses droits d'auteur à ceux-ci. Le docteur Véron lui offre une place de critique musicale pour le Constitutionnel et il figure parmi les critiques musicaux les plus écoutés et respectés de son temps. Adam obtint, grâce à la protection du général Cavaignac, alors président du conseil chargé du pouvoir exécutif, la création d'une quatrième classe de composition musicale au conservatoire, une classe que le compositeur a tenue jusqu'à la fin de sa vie. Adam s'est donc remis d'arrache-pied à la composition et accouche de quelques ouvrages majeurs de son œuvre, tels l'opéra comique Le Toréador en 1849, Giralda sur un livret de scribe pour l'opéra, une messe de Sainte-Cécile la même année, ou bien La poupée de Nuremberg au théâtre lyrique et, en 1852, l'opéra bouffe Si j'étais roi, qui longtemps resta au répertoire de théâtre français. Son œuvre ultime, intitulée Les Pantins de Violette, est une agréable opérette en un acte qui fut créée le 29 avril 1856 au Bouffe Parisien, chez Jacques Offenbach, exactement 4 jours avant la mort d'Adam. Le travail l'avait conduit au tombeau, tant il avait mis un point d'honneur à satisfaire aux obligations financières dans lesquelles la faillite de son théâtre l'avait plongé.
Lundi dernier, à midi, ont eu lieu les obsèques de M. Adolphe Adam, membre de l'Institut. Une foule immense suivait le convoi. Les coins du poêle étaient tenus par messieurs Aubert, Alévi, Ambroise Thomas, Carafa, le baron Taylor, membre de l'Institut, M. de Saint-Georges, M. Perrin, directeur de l'Opéra Comique, et M. Carvalho, directeur du Théâtre Lyrique. Le corps a été porté à l'église Notre-Dame de Lorette qui s'est trouvée trop petite pour contenir tous ceux qui étaient venus rendre un dernier hommage aux musiciens populaires dont la mort a été si précipitée. Tout ce qu'il y a dans Paris d'artistes et d'écrivains éminents ont accompagné le corps du défunt jusqu'à sa dernière demeure. La mort de M. Adolphe Adam est un deuil pour l'art, un deuil pour les nombreux amis qui l'ont suivi dans son existence laborieuse et honnête. Ceux-là ont pu apprécier l'excellence de son cœur et le charme de son esprit. Il laisse un grand vide au milieu d'eux. Le soir des obsèques, le théâtre lyrique et les bouffes parisiens ont fait relâche. L'opéra a joué le corsaire, mais l'empereur a voulu que le produit de la représentation fût versé entre les mains de Madame Adam. La recette s'est élevée à 9 978 francs.